Les théories de la valeur. La valeur est la première catégorie que détermine le commerce. À son sujet, comme aussi au sujet de toutes les autres catégories, il n'y a pas de conflit entre les économistes anciens et les économistes modernes. C'est que, aveuglés par la fureur de s'enrichir, les monopolistes n'avaient pas le temps de s'occuper de catégories. Toutes les contestations sur ces points ne datent que de l'économie moderne. L'économiste vit d'opposition. Il nous offre donc naturellement une double valeur. La valeur abstraite ou réelle et la valeur d'échange. Une longue polémique s'est engagée sur l'essence de la valeur réelle. Les Anglais voyaient dans le coût de production l'expression de la valeur réelle. Le français Say prétendait mesurer cette valeur à l'utilité de l'objet. Depuis le début du siècle, la question est pendante. Le débat d'ailleurs s'est assoupi, sans qu'elle fût tranchée. Les économistes ne tranchent jamais rien. Les Anglais, en particulier McCulloch et Ricardo, prétendent que la valeur abstraite d'un objet est déterminée par son coût de production. La valeur abstraite, bien entendu, non la valeur d'échange. Dans la sphère commerciale, la valeur est tout autre chose. Et pourquoi donc le coût de production est-il la mesure de la valeur? Parce que, écoutez bien, parce que dans les conditions habituelles, et si nous laissons de côté la concurrence, personne ne voudrait vendre un objet à un prix inférieur à son coût de production. Or, ici, il ne s'agit pas de la valeur commerciale. Que vient donc faire la vente? Le commerce rentre en scène alors que nous devions le laisser de côté. Et quel commerce encore? Un commerce où l'important, la concurrence, ne doit pas intervenir? Nous avions d'abord une valeur abstraite, nous avons maintenant un commerce abstrait, un commerce sans concurrence, un homme sans corps, une pensée sans le cerveau qui la produit. Les économistes n'y songent pas. On néglige la concurrence, mais on n'a aucune garantie que le producteur vende ses marchandises juste au coût de production. Quelle confusion! Allons plus loin. Admettons que pour un instant, tout se passe comme le dit l'économiste. Admettons qu'au prix de peines effroyables et de dépenses énormes, quelques-uns produisent un objet parfaitement inutile que personne ne désire. Sa valeur sera-t-elle également mesurée par le coût de production? Pas le moins du monde, répond l'économiste. Qui donc voudrait l'acheter? Voilà donc qu'apparaissent non seulement l'utilité, si décriée de Say, mais encore la concurrence qui intervient sous cet achat. C'est impossible. L'économiste ne peut, même un seul instant, maintenir son abstraction. La concurrence qu'il met tant de peine à écarter, de même que l'utilité qu'il attaque, reviennent continuellement sous sa main. La valeur abstraite, sa détermination par le coût de production, ne sont que de pures abstractions, du néant. Mais une fois encore, et pour un moment, donnons raison à l'économiste. Comment nous déterminera-t-il alors le coût de production sans faire intervenir la concurrence? En étudiant le coût de production, nous verrons que cette catégorie, elle aussi, est basée sur la concurrence. Ici encore, nous voyons combien peu l'économiste est capable d'aller jusqu'au bout de ses affirmations. Si nous passons à Say, nous rencontrons les mêmes abstractions. L'utilité d'un objet est chose purement subjective, impossible à déterminer d'une façon absolue. Du moins, tant qu'on erre encore de contradiction en contradiction. D'après cette théorie, les utilités nécessaires devraient posséder plus de valeur que les articles de luxe. Sous le régime de la propriété, une seule voie nous permet de déterminer, d'une façon quelque peu objective, apparemment universelle, le degré d'utilité d'un objet. Il faut faire intervenir les relations de concurrence. Or, c'est précisément ces relations que nous devons laisser de côté. Si l'on admet la concurrence, le coût de production reparaît. Personne ne vendra un objet à un prix inférieur à son coût de production. Ici encore, un terme de la contradiction passe involontairement dans l'autre. Cherchons à mettre un peu de clarté dans cette confusion. La valeur d'un objet comprend deux facteurs que les parties en présence ont voulu distinguer brutalement et comme nous l'avons vu sans succès. La valeur est le rapport du coût de production à l'utilité. La valeur sert tout d'abord à décider si d'une manière générale un objet doit être produit, si l'utilité compense le coût de production. Alors seulement, on peut parler d'employer la valeur à l'échange. le coût de production de deux objets étant supposé égal, l'utilité constituera le moment décisif et déterminera leur valeur comparative. Telle est la seule base légitime de l'échange. Mais si l'on en part, qui décidera de l'utilité d'un objet ? La simple opinion des intéressés ? Alors, un de ceux-ci se trouvera trompé en tout cas. Ou bien s'agira-t-il d'une qualité fondée sur l'utilité immanente de l'objet, indépendamment des parties en présence, sans qu'elles la connaissent ? L'échange ne peut s'effectuer alors que par contrainte et chacun se considère comme trompé. Sans abolir la propriété privée, on ne peut supprimer la contradiction entre l'utilité inhérente, l'utilité réelle d'un objet, et la détermination de cette utilité, entre la détermination de cette utilité et la liberté des échangistes. La propriété privée est-elle abolie ? Il ne peut plus être question de l'échange tel qu'il s'exerce actuellement. L'application pratique du concept de la valeur se réduira de plus en plus à la décision quant à l'utilité de telle ou telle production. Telle est d'ailleurs sa sphère propre. Mais où en sommes-nous maintenant arrivés ? Nous avons vu que la notion de valeur était brutalement scindée. De chacune de ses parties, on fait le tout. Le coût de production, faussé dès l'origine par la concurrence, est pris pour la valeur. Il en est de même de l'utilité, purement subjective encore, puisque, pour le moment, il ne peut y en avoir d'autre. Dans les deux cas, on doit faire intervenir la concurrence si l'on veut remettre sur pied ces définitions boiteuses. Le meilleur de l'affaire est que, chez les Anglais, la concurrence représente l'utilité vis-à-vis du coût de production, tandis qu'au contraire, chez Say, cette même concurrence introduit le coût de production vis-à-vis de l'utilité. Mais de quelle utilité ? De quel coût de production s'agit-il ? Son utilité dépend du hasard, de la mode, du caprice des riches, et le coût de production hausse le rapport fortuit entre l'offre et la demande. La différence entre la valeur réelle et la valeur d'échange se fonde sur le fait que la valeur d'un objet diffère du prétendu équivalent qu'on donne pour lui dans le commerce. Ce qui veut dire que cet équivalent n'en est pas un. Ce que l'on appelle ainsi est le prix de l'objet. Équitable, l'économiste mettrait ce mot à la place de la valeur commerciale. Mais il faut bien qu'il sauve les apparences et qu'il fasse croire que le prix a quelque chose en rapport avec sa valeur. Sans cela, l'immoralité du commerce apparaît par trop clairement. En fait, la vérité est que le prix est déterminé par l'action réciproque du coût de production et de la concurrence. C'est une loi fondamentale de la propriété privée. Cette loi, purement empirique, est la première découverte de l'économiste. C'est d'elle que, par abstraction, il a tiré sa valeur réelle, c'est-à-dire le prix au moment où il y a équilibre dans la concurrence, où l'offre et la demande se couvrent. Alors subsistent naturellement seuls les coûts de production. C'est ce que l'économiste appelle « valeur réelle ». À vrai dire, ce n'est qu'une détermination du prix. Mais tout est inversé dans l'économie. La valeur, qui est l'origine, la source du prix, dépend maintenant de son propre produit. On sait que cette inversion forme l'essence même de l'abstraction. On peut consulter Feuerbach sur ce point.